Bienvenue dans Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour les leaders et les managers qui ont envie de tester, réfléchir, oser des choses un peu différentes. Alors aujourd'hui, une petite question. À combien sur 5 évaluez-vous la qualité, la pertinence des questions que vous posez? Allez, donnez-vous un chiffre entre 2 et 5. Deuxième question. À combien sur 5 évaluez-vous la qualité, la pertinence des questions que l'on vous pose? Un petit moment pour réfléchir. Eh bien oui, la question est un excellent outil. Et aujourd'hui, on va aller regarder comment la questionnologie peut vous aider à gagner en impact dans vos relations pour vous et pour emmener les équipes ou tout simplement pour contribuer dans les équipes vers plus de collectif de responsabilisation. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, entrepreneur, executive coach, et je suis ravie aujourd'hui de vous emmener sur la redécouverte d'une approche que vous connaissez, c'est-à-dire le questionnement, appelé questionnologie, afin que vous puissiez gagner en impact et voir comment vous pouvez utiliser autrement cet outil que vous connaissez déjà fort bien. On va démarrer avec Sacha Guitry. Si vous me jugez sur mes réponses, si vous croyez que je ne vous juge pas sur vos questions, ça nous laisse beaucoup à penser. Alors justement, on va revenir sur les petites questions du début. À quel point estimez-vous la qualité, la pertinence des questions que vous posez? Quel que soit le chiffre que vous avez répondu, c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent cette question. Comment j'ouvre la relation? Quelle est mon intention? Quand je pose une question, si du coup j'ai la réponse, est-ce que c'est l'indication que ma question a fonctionné? Souvent, c'est ce qu'on pense. En tous les cas, aujourd'hui, on va voir qu'il y a différents modes de questionnement. Et sur ces différents modes, eh bien, je vais vous en partager quelques-uns. Tout comme l'idée de « est-ce qu'on me pose des questions intéressantes ?» Et souvent, quand je vous parle en direct dans les coachings, eh bien, vous me dites « ouais, bof, ça ne m'a pas appris grand-chose parce que je m'étais déjà posé la question. » Ou « ok, il y a un impact, mais ce n'est pas vraiment ça qui va me motiver. » Ou « ça ne me fait pas tellement avancer. » Et oui, la plupart de nos questions ne sont pas assez puissantes. Et là, c'est vraiment un coach en toute humilité qui vous parle, parce que même si je suis entraînée, supervisée pour trouver ou pour élaborer ce qu'on appellerait des questions puissantes, eh bien, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas si facile. En fait, nous n'utilisons que 15% des questions disponibles. Vous imaginez 15% tout le potentiel qu'il reste à voir. Et bien évidemment, à question conventionnelle, réponse convenue. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Ou tu vas bien? Oui. Bon, avec ça, ça ne va pas vous donner beaucoup d'indications sur l'état d'esprit du collègue ou de votre père. C'est pour ça que je vais vous proposer d'oser des questions un peu plus impliquantes pour avoir des réponses un peu plus engagées. Celui qui pose les questions, en général, c'est celui qui lead. Donc parfois, quand vous me dites « j'ose pas, c'est peut-être pas intéressant, on n'a pas le temps, c'est pas le bon moment », et oui, osez, parce que la puissance de vos questions va vraiment densifier votre style de management, va densifier aussi votre style de manager-coach. En tous les cas, ça va donner de la puissance à votre style, à votre personnalité. Ça va permettre de se rencontrer, parfois ça va permettre d'autoriser, de concrétiser et aussi bien évidemment de co-construire. En premier lieu, quand vous allez voir quelqu'un, quand vous êtes en groupe, prenez juste 2 secondes avant et dites-vous « ok, quelle est mon intention ? Finalement, qu'est-ce que je vise ? Comment je considère mon public, l'autre ?» avant de poser cette fameuse question. Rappelez-vous, la forme de vos questions détermine la qualité de vos relations. Donc, cet outil que vous connaissez si bien, ça vaut vraiment la peine de le redécouvrir. Et même si là, j'entends un petit peu vos petites voix qui vous disent « Non mais attends, à chaque fois que je suis en réunion, si je dois faire le pas de côté, réfléchir, non mais je ne vais jamais y arriver. Moi, je suis extravertie, spontanée, bam, j'envoie une question. » ou moi je suis introvertie, il faut vraiment que je tourne dans ma tête, que je réfléchisse. Quelles que soient vos préférences, vraiment, ça vaut la peine de s'entraîner, de se muscler, parce que cet outil-là, la questionnologie, je trouve que c'est pas assez utilisé pour vous au quotidien, à la fois dans le domaine personnel et à la fois dans le domaine professionnel. On va démarrer par une première intention pour donner de la puissance à la relation, ouvrir l'ouverture. Alors bien évidemment, vous n'allez pas échapper à ce qu'on revisite les questions fermées, les questions ouvertes. Par définition, question fermée, une réponse. C'est utile, ça permet le contrôle, c'est rapide, ça fixe le cadre. Par contre, ça peut vraiment désimpliquer. Les questions ouvertes, ça ouvre, ça permet la créativité, ça permet d'impliquer. Mais vous allez me dire, waouh, on n'a pas trop le temps, hein. Ça risque de nous faire perdre du temps. Il y a une réponse qui est imprévisible, alors moi j'ai pas envie hein, dans ma réunion qu'il y ait du chaos. Et donc, en plus de ça, ça peut nous donner une infinité de pistes sur lesquelles je n'ai pas envie d'aller. Alors à vous de choisir. Soit vous voulez ouvrir pour réellement avoir de l'information, soit vous voulez rester dans le contrôle. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à abuser des questions fermées. Bon, ben là, je vous taquine un peu parce que je ne suis pas réelle fan des questions fermées. Pourquoi ? Ben parce que le questionneur peut vraiment anticiper la réponse. Quand on commence par « est-ce que ?», y a-t-il ? Évidemment qu'il y a sûrement une réponse qui va arriver, qui va justement nous donner raison. Quand je suis en question ouverte, le questionneur ne peut pas anticiper la réponse. Donc, on va revenir à qui, quand, quoi, comment. On peut aller sur le « comment » et puis le « qu'est-ce que ?». Alors, des petits exemples. Dire « ça te va ?», switcher sur le « qu'en penses-tu ?». Plutôt que « est-ce que cela est réaliste ? » Switcher sur « quelle sorte de chance avons-nous de réussir ?» plutôt que « est-ce que vous ne trouvez pas que c'est risqué ?» N'hésitez pas à dire « quels sont les risques ?» Et pour finir, le petit « au fait, avez-vous terminé ?» Évitez-le et allez vers « où en êtes-vous ?» Je sais que vous avez déjà eu plein de formations là-dessus. Ça n'empêche qu'il y a quelques petits ancrages qu'il serait bon d'étendre, de muscler pour passer à autre chose. Parce que là, vous l'avez bien compris, la forme que j'emploie va ouvrir ou va fermer la relation. Même si ce n'est pas finalement avec une vraie intention de faire cela, ça a quand même cet impact. Et c'est dommage parfois. Une des raisons qui fait que je ne suis pas très fan des questions fermées, c'est que celui qui enchaîne les questions fermées, en général, a une idée et la poursuit. Et du coup, eh bien, ça a tendance à tirer dans la relation et à renforcer les objections. Et ça, comme nous travaillons en ce moment sur beaucoup de collectifs, de co-créativité, eh bien, ce n'est pas très utile, voire même, c'est dommageable dans les équipes. Alors, que faire quand vous êtes bombardé de questions fermées ? Eh bien, je vais vous proposer de respirer, de compter 1, 2, 3 et d'examiner la question avant de répondre. Vous laissez passer un silence. Et dites-vous que peut-être derrière cette question fermée, il y a une idée, il y a une conviction, il y a un objectif qui n'est pas partagé, qui n'est pas ouvert. Deuxièmement, interrogez votre interlocuteur. Demandez-lui, mais qu'en pensez-vous ? Et à votre avis, quel est votre point de vue ? Et là, vous écoutez. Vous écoutez comment il est arrivé à voir cette construction. Et puis, en quatrième point, je vous propose de lui demander et d'oser la lui demander, finalement, quelle est ta question derrière ? Quelle est cette idée intéressante que tu peux avoir ? L'idée là, ça sera de rechercher ce qu'on appelle sa motivation ou sa quête. Finalement, quand il est dans ce genre de question, qu'est-ce qu'il veut vous démontrer ? Ou alors, vers quoi veut-il vous emmener votre interlocuteur ? Faites expliciter ce que l'autre veut savoir. Cela nous amène à une deuxième intention lorsqu'on questionne « motivé ». Et souvent, vous me dites « alors moi, je passe beaucoup de temps en face-to-face, en entretien individuel, parce que je cherche à savoir comment ça se passe pour mes pairs, pour les contributeurs, pour les parties prenantes. » Et alors là, je vous dis « ok, et comment ça se passe ? Quel genre de questions vous utilisez ?» Et là arrive la grande question du « pourquoi ?» Ah oui, parce qu'on vous a quand même dit que le pourquoi, souvent, c'est une question ouverte. Et moi, je vais vous dire, ok, le pourquoi, il y a un petit mais. Eh bien oui, parce que vous avez envie de construire le futur. Et lorsque nous questionnons, eh bien parfois nous questionnons avec un regard vers le passé, genre, pourquoi vous avez fait ça? Quelles étaient les raisons? Quelles étaient les causes? Alors que nous aurions besoin de questionner vers le futur. Afin que cela fonctionne, de quoi aurais-tu besoin? Comment je vais pouvoir t'aider? Voire même au présent, de quoi as-tu besoin maintenant? Comment pourrions-nous faire autrement? Et donc, avec le pourquoi, vous allez tourner l'autre vers le passé et d'entrée de jeu, sa première réponse va être « parce que ». Vous n'avez pas envie d'entendre du « parce que ». Ce que vous auriez envie de savoir, c'est « ok, où est-ce que la boulette a été faite ?» ou « comment on pourrait faire autrement ?» Et vous auriez plutôt envie d'avoir déjà des options de solutions. Et en face de vous, on va avoir quelqu'un qui se justifie. J'ai fait ça parce que ça, on a répondu comme ça, parce que ceci. Et donc, je vous rappelle que si tu te justifies, tu te démotives. Eh bien oui, parce que je vais avoir moins confiance en moi, je vais me sentir obligée de prouver. Et de ce fait, eh bien, je vais moins m'engager. Je vais vous inviter donc à éviter le pourquoi et chercher la motivation plutôt que la justification. Et donc, au lieu de démarrer une réponse quand on vous dira « pourquoi vous avez fait comme ça ?», arrêtez le « parce que », mais dites « pour ». J'ai décidé de faire un team building pour fédérer les équipes, pour permettre aux personnes de mieux se connaître, pour gagner en impact, et non pas parce qu'on avait des problèmes, parce que ça ne fonctionnait pas, parce qu'on me l'a dit. Et vous allez voir que vous allez gagner en puissance. Donc, Marocco, on enlève le max de « parce que » et on va plutôt vers le « pour ». Alors bien évidemment, hein, on commence à se connaître un petit peu. Je sais que ce n'est pas toujours facile et je suis la première à tomber dans les pièges. Donc si à un moment vous vous dites « oh là là, ça ne s'est pas bien passé cet entretien », oh, j'ai encore été avec mon mitraillage de pourquoi, c'est ok. On pratique l'auto-bienveillance, on s'entraîne, on fait du test and learn et on s'ajuste. Une troisième intention lorsque je questionne, induire. Eh bien oui, quel va être mon focus? Est-ce que j'ai envie d'être sur ce qu'il s'est passé? On va dire le passé, le problème, qu'est-ce qui empêche d'eux? Ou est-ce que j'ai envie d'être sur la solution? Donc, je vous propose, vous, de vous mettre au clair parce que vos questions vont vraiment être influencées par la manière dont vous regardez l'objet qui vous concerne. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'induction, c'est là où je vais aller et le terrain de jeu sur lequel je veux emmener l'autre. En général, quand il y a un problème, quelque chose qui ne se passe pas bien, eh bien, le terrain de l'autre, c'est le problème. Je ne peux pas faire comme ça, j'ai un souci. Et le vôtre va plutôt être de, ok, soit je cherche les raisons, vous vous rappelez le pourquoi, soit je veux dépasser le problème. Donc je suis déjà dans le futur et je suis déjà dans les solutions. À vous de choisir. Et si vous voulez être vraiment dans mon terrain de jeu, c'est la résolution de problèmes, eh bien, je vous invite à utiliser beaucoup plus le comment. Par exemple, à quelqu'un qui vous dirait, on n'arrive pas à communiquer, c'est comment pourrions-nous communiquer autrement? Je ne veux pas être responsable, ok, comment allons-nous assumer ce choix? Je n'ai pas compris, c'est très important, que faut-il faire pour que moi je puisse mieux t'entendre, mieux t'écouter? Donc vous voyez, à chaque fois, c'est ok, vous reconnaissez l'autre dans sa demande, dans son problème, puis après, un petit pas de côté, et on est dans la recherche de solutions. Et là, vous allez pouvoir induire en emmenant, en impliquant et surtout en écoutant. Bien évidemment, à chaque question posée, un silence, une vraie écoute où on évite de se dire « ok, j'ai compris, je le savais déjà ». J'accueille réellement et je laisse le temps pour l'écoute. Bon, je fais juste ce petit rappel à tous ceux qui n'ont pas de temps à perdre, à tous ceux qui n'aiment pas les silences, écouter et converser demande un minimum d'espace-temps. Quand vous pratiquez l'induction, vous êtes dans le guidage. Et je rappelle que quand je pose des questions, c'est une histoire de conjugaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde trop dans le passé, on va aller me parler du passé. Genre, au fait, c'était quoi les objectifs quand on faisait ça? Si je veux aller vers les résolutions de problèmes, si je veux créer de la dynamique d'avenir, eh bien j'ai intérêt à aller vers le futur. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour? Comment vous voyez les critères de solutions qui pourraient être exposés? Si vous souhaitez ouvrir, donner de la perspective, eh bien utilisez le temps futur dans vos questions. Ça paraît simple et finalement, vous allez voir qu'on a des petites tendances parfois à rester ancré soit sur le présent, soit revenir un peu trop sur le passé. Donc là, j'ai envie de dire à vous de jouer et aller direct focaliser sur le futur, sur la perspective, sur les objectifs et le sens à venir. Une cinquième intention qui est souvent au cœur de vos réflexions quand vous venez me voir et vous me dites « Oh, là, il y a un truc qui ne se passe pas bien avec une personne ». On est un peu bloqué, genre ping-pong, ça va pas fort, il y a un fort enjeu, on n'arrive plus à se parler de manière constructive et du coup, rien ne se passe. Je vous propose d'aller prendre un temps calme avec la personne et déjà d'aller reconnaître. C'est dire, ok, entre nous ou sur ce sujet, je vois un problème, est-ce que toi aussi tu vois un problème ? Là, on fait quoi ? On va partager nos perceptions. Est-ce que toi, tu vois un 6 ou est-ce que toi, tu vois un 9 ? Donc, on va s'aligner sur le fait que là, ce qui est très logique et très normal en entreprise comme dans le privé, un groupe fonctionne avec de la joie, avec des tensions et le rêve qu'on a de croire qu'un groupe n'aurait pas de tension est un rêve inatteignable. C'est logique puisqu'on va avoir des réajustements. Donc, une fois qu'on a vu cette personne et que nous sommes alignés sur le fait que, ok, on a un problème, la deuxième question, c'est est-ce qu'on est ok pour le résoudre ? Et à partir de là, demandez-lui ce qui se joue pour lui. Finalement, quand il agit comme ça, à quelle question il est en train de répondre ? Une fois que vous aurez mis tous les deux vos enjeux, eh bien, reste à comprendre comment, ensemble, vous pourriez faire un enjeu commun. Une cinquième intention avec les questions serait de s'aligner et de décider en équipe. Alors, je suis sûre que vous avez plein de trucs et astuces pour décider, des matrices peut-être, des tableaux. Eh bien, moi, je vais vous proposer une matrice des risques en 8 questions. On va donc réfléchir en risques et en bénéfices. 4 questions pour les risques. Quel risque avons-nous à faire ce projet ? Quel risque avons-nous à ne pas le faire ? Quel risque nous ne prenons pas en le faisant ? Quel risque nous ne prenons pas en ne le faisant pas ? Du côté des bénéfices, quel bénéfice avons-nous à faire ce projet ? Quel bénéfice à ne pas le faire ? Quel bénéfice nous n'obtiendrons pas en le faisant ? Quel bénéfice nous n'aurons pas en ne le faisant pas. Là aussi, vous voyez que la puissance des questions va amener différents points de vue, va amener aussi une co-construction qui, j'espère, pourra vous aider à déterminer et à choisir en collectif de manière plus harmonieuse et aussi plus alignée. Comme vous le voyez, l'art des questions puissantes est vraiment un fabuleux outil. C'est une démarche que je vous invite à regarder. C'est aussi à reconsidérer la manière dont vous utilisez les questions. Et la questionnologie, c'est encore plus vaste. C'est vraiment un sujet qui me plaît beaucoup. Bien évidemment, dans la nature du métier que j'exerce, le coaching, c'est aussi, je pense, une manière pour vous de pouvoir aller plus vite et aussi mieux et ensemble et aligné dans la résolution de problèmes. Et en fait, c'est Einstein qui m'a un peu soufflé la fin parce qu'on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Un problème sans solution est un problème mal posé. Et donc, du coup, je crois que utiliser et revoir sa manière de questionner peut vraiment être une belle aide. Un grand merci pour votre écoute. Je suis ravie vraiment de vous voir plus en plus nombreux, de pouvoir partager avec vous cette passion de l'accompagnement, cette passion et aussi ces réflexions par rapport à comment agir, sachant que vous le savez, dans le soft skills, c'est jamais fini. Donc je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à venir nous retrouver pour écouter d'autres podcasts ou sur ma page LinkedIn. À très bientôt. Bye bye.